Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h07. On est dans le Super Moscato Show. On y revient. On est sur RMC comme tous les jours. Vous le savez. 15h-18h. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, Pierrot, à nous écouter, à écouter aussi, à écouter quoi, Pierrot?
À écouter les podcasts.
Et voilà, les podcasts, bien sûr. Bam. Il est là, Stifoulet. Bref.
Ouais.
Denis Charvet, oui. Adrien Aigouin, Pierrot, dans demi-heure, clacasse le programme.
Alors, dans une demi-heure, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment des transferts pendant la Coupe du Monde avec des joueurs qui se sont déjà mis en valeur. Et évidemment, Cyril Gane, on y reviendra. Vincent, il est champion du monde, poids lourd de l'UFC.
Intérimaire.
Pour l'instant, intérimaire.
Attention.
Mais ça pourrait être upgradé sans même combattre. Et puis, Paul Sexas, qui a abandonné sur le tour Auvergne-Rhône-Alpes, analyse.
Analyse.
Ouais.
Chute. Avant cela, le rugby, c'est maintenant. Êtes-vous surpris du niveau du Racing et du Stade français? Vincent Moscato barre le problème tout de suite. Et puis France-Sénégal à 17h. Les Bleus doivent-ils marquer leur territoire? Qui nous rejoint en l'absence d'Éric Dimeco à 17h?
Événement incroyable.
Attention.
Non, sonne. Un Bordelais,
champion du monde.
Un Bordelais avec qui t'as partagé des choses dans la vie.
Ah oui, non, mais un bon mec, oui.
Il a joué à Birmingham.
Le Duc de Boulogne. Ça fait plaisir de l'avoir un peu.
J'ai voulu l'appeler avant l'émission parce que comme ça, tu vois,
c'est
ça. Dans le Moscato Show, je voulais le détendre un peu, mais il dit bon, mais pourquoi tu m'appelles Poulet?
Est-ce que c'est quelqu'un de détendu, Christophe?
Oui. Il va y mettre un peu la pression, il va falloir quand même appuyer.
Ça première. Deuxième, je crois. Mais souvenez-vous, il est venu nous voir parce que pendant le Covid, il n'y a pas Tim Dugas. Et donc, il venait faire des interventions dans le Moscato Show, Christophe Dugarry. C'était en 2020.
Et c'était correct?
C'était très correct. Il est Moscato Show compatible.
Il est bon, Dugas.
Non, mais ce qu'on sait pas, c'est qu'il est très omnisport. Il adore tous les sports.
Le journal moyen, Adrien, à 16h45.
Écoutez, je pensais pas avoir affaire à lui, mais il est de retour dans le journal moyen. Jeannot Rességuier. Oui.
Jeannot.
Parce que Jeannot commentait un match sur M6 hier à la télé. Ouais. Jeannot.
Il était bien épaulé par Didier Six.
Par Jean-Marc Ferreri.
Ah oui, parce que
Jean-Marc Ferreri. Quelques saucisses de
Ferreri, mais c'est un
ange. C'est incroyable.
C'est un chapelet.
Ah
ouais. Quelques saucisses de Jeannot. Et j'ai deux cancres à vous présenter chez les Bleus, chez les 26 là. Il y en a un où on sait que c'est un cancre. Ryan Cherki, très coquin. Le deuxième, c'est Marcus Thuram.
Bien.
Ils sont coquins. Ils sont coquins, ils font des blagues.
Allez,
c'est bien.
Mais il vaut mieux dans un groupe. T'as et moi, passer ensemble, vaut mieux qu'il y ait des mecs qui
faisaient des blagues.
Moi, j'étais sage comme une image. Un peu trop d'ailleurs.
Ouais. Dans le Kikadi.
J'aurais dû en faire moins.
Vous remportez votre cadre photo connecté d'Agfa Photo. Alors. C'est bien qu'ils reviennent, parce qu'à chaque fois, c'est un carnage. Je ne sais pas pourquoi, vous voulez tous le cadre photo connecté d'Agfa Photo. Vous inscrivez.
Pourquoi?
En inscrivant par SMS au 730. Non, c'est un cadre que tu mets chez toi, mais il est connecté. C'est-à-dire que
tu mets les photos que tu veux et tu mets les photos peuvent défiler sur ton
cadre. Ah d'accord, c'est le cadre.
Genre hier, tu l'as au mur.
Oui,
genre hier, tu fais un selfie avec Denis à Jean Boin avec les supporters et tout, et tu le mets chez toi après dans le cadre.
C'est ce qui est génial.
Tu peux faire une soirée diapo.
Ce qui est génial, c'est que tu peux avoir ton cadre chez toi et les messages que tu reçois s'affichent sur le cadre.
Voilà, ça c'est super sympa.
Ça c'est super. Et chez toi en famille, tranquille.
Ouais, alors ça arrive à des copains.
Ouais.
Ça s'est pas bien terminé.
Ça commence à dire ah, tu l'aimes, mais.
Oh, il est chaud,
la sauce de Marco.
Moins que ça, Vincent.
Ah ouais.
Coucou, tu vas bien? C'est pire que tous.
Ah, le coucou, tu vas bien, il passe pas chez les Moscato.
Non, il passe
pas. Surtout quand c'est pas écrit le nom qui est dessus, c'est qu'un plus 33.
Le coucou, parce que ça peut être quelqu'un qui dit coucou, tu vas bien. Moi,
c'est avec un petit cœur à côté.
Coucou, tu vas bien. Alors, là, c'est de suite, il y a l'inspection qui me tombe dessus. Là, pas
mais inspection avec quand même présomption de culpabilité.
Et deuxième message, c'est l'emoji aubergine là dedans par contre.
Si tu reçois. Non, mais juste.
Coucou, tu vas bien avec les hommes.
Juste, tu me manques. Tu me manques, Vincent.
Ah ouais,
Tu me manques. Ou alors, ça fait longtemps. Mais comment vous connaissez tous ces messages?
Pierrot, tu as l'air de sa mort, hein, Pierrot. Alors, bon, en attendant, si vous voulez gagner votre
faire encore quelques cadres, il va parler à Valérie. Ça,
vous envoyez Kikadi par SMS au 32-16. Et donc, tout de suite, imaginez les déclarations d'avant-match si le Racing retrouver le Stade français en finale.
Un derby parisien.
On va faire rêver. Si on ne pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas un groupe à péter le boulard.
Ouais. Stade français, maillot français contre Racing, maillot clair.
Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby.
La partie s'engage rapidement.
C'est grave, déjà, mais je vois le trou. J'allonge ma foulée.
Une sortie en touche pour le Racing.
Tu sais que la route est longue.
Remise en jeu.
Et là, je fais une passe de 30 mètres. La sortie est laissée. Brillé, oui, oh, fabuleuse.
Un essai pour le stade.
Moi, je vois le trou, j'ai mis le fouet, puis je vais filer extérieur. Je dis, on va pas faire un autre.
Suivi d'une transformation manquée.
Pense toujours à gagner.
Transformation réussie cette fois, toujours pour le stade.
Et c'est la réussite d'un groupe, d'un collectif et d'une aventure humaine fabuleuse.
Agui, à Jacques, Robert, Serge.
Après de nombreuses phases mouvementées, les deux équipes termineront à égalité.
Un moment exceptionnel du rugby français.
L'expérience, ça sert un petit peu, quoi.
Moscato,
on va pas en faire un œuf quand même.
Non, mais c'est ça.
Non, mais c'est là encore. Oui. On va pas en faire un œuf. C'est ton seul moment de modestie de toute la saison.
Ouais.
Parce que tu dis, bon, c'est bon, on va pas en faire un œuf. Je vais te sauver un peu. Il y a un espèce d'asticot derrière toi qui dit vriller la passe, oui. Qui en rajoute une
deuxième. Oui, c'est un truc
qui est derrière. Au micro du journaliste, tu dis, ouais, je fais une passe extraordinaire.
32 mètres.
Et un autre qui rajoute vriller. C'est qui ce mec?
C'est Bernard, ou Serge?
Non, mais non.
C'est un enfoiré.
Christophe Reit.
Ouais, je sais pas, ouais. Christophe, William.
Ouais, un de cette confrérie.
Bernard, ouais, de cette confrérie de poètes disparus, quoi.
Alors, on y va. Les barrages. Donc, il n'y a pas eu de match entre le Stade français et La Rochelle. Le Racing a résisté au retour de Pau à l'extérieur. Deux équipes qu'on n'attendait pas forcément en demi-finale. Hein. Êtes-vous étonné du niveau du Stade français et du Racing? Vincent Moscato règle le problème. Alors, je vous donne le tableau des demi-finales, du coup. On aura vendredi 21h05 Toulouse Racing. Ouais. Et samedi 21h05 Montpellier Stade Français à Marseille. Nous y serons vendredi pour une émission spéciale demi-finale du Top 14. Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Bonjour Will.
Et c'est vrai donc que le Stade Français et le Racing m'ont impressionné pendant ce barrage.
Oui, on commence dans l'ordre avec le Racing, vainqueur samedi soir à Pau 33-31, mais qui menait de 16 points 33-17 à la 53e minute. Dans le sillage de joueurs usants comme Bamba, Taofifenua, un Maniarara exceptionnel en 8, puis tour à tour Abossi et Twisova, le tout avec une charnière Carbono-Gibert inspirée. À la fin du match, le manager Patrice Collazo dressait fièrement le bilan.
Trouver nos ballons portés très bons, notre touche a été très bonne, excellente, notre discipline sur la première mi-temps, on a deux pénalités, notre mêlée a été sur les temps forts, voilà. Et puis après la défense, quoi. Et certains joueurs ont monté le curseur quasiment comme il n'avait jamais monté cette saison. Je pense à la troisième ligne qui a dû tourner à 25 plaquages chacun. Quand vous décidez que c'est le jour et que c'est maintenant, ils sont difficilement jouables. Je leur ai dit avant le match, aujourd'hui il faudra être insubmersible. C'est-à-dire insubmersible, c'est un truc qui ne peut pas couler ni disparaître. Je leur avais demandé ça. Je leur avais dit aujourd'hui on ne peut pas couler ni disparaître. Il faut être insubmersible et ils ont été insubmersibles.
Même avec le retour pas loin en fin de match, le Racing n'a donc pas coulé. Les Franciliens ont les arguments pour aller bousculer Toulouse, même s'ils devront faire le match parfait, avec une sorte de confiance qui fait qu'ils ont gagné 7 de leurs 8 derniers matchs. À quelques kilomètres d'eux, le Stade français a frappé très fort. 45-5 contre La Rochelle. Jamais dans l'histoire des barrages il y avait eu un tel écart. Les Parisiens ont attrapé leur adversaire à la gorge et n'ont jamais relâché l'étreinte. Le capitaine Paul Gabriel reconnaissait la forme de son équipe.
Je pense qu'on a bien géré toute la saison aussi en termes d'énergie, de temps de jeu, pour arriver sur ces matchs importants avec le maximum d'énergie.
Ouais, mais une mêlée qui renverse tout, une touche parfaite, des trois quarts de feu, et la deuxième attaque du Top 14, ça vient aussi d'une saison linéaire, avec pour preuve les 17 bonus ramenés en 26 journées. Personne n'a fait mieux, un travail de longue haleine.
Je pense qu'on a cette confiance-là quand même là depuis quelques temps. On a réussi à créer ça tout au long de la saison, match après match, de créer cette confiance. Et c'est ce qui te permet après d'être plus serein. Et je pense qu'on l'avait vu avant sur certains matchs pendant la saison. Faut être honnête, c'est pas le même visage que l'an dernier. Et je pense que la confiance, il joue énormément dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport. La confiance, c'est très important.
Et on se délecte déjà du choc terrible que cela va faire face à Montpellier, qui de son côté a gagné 14 de ses 15 derniers matchs, notamment en mêlée, où on aura les deux meilleurs face à face.
Merci Wilfried. Vincent, est-ce que t'as été surpris finalement par les deux clubs parisiens.
Ah ouais, non, j'étais surpris. On savait qu'ils étaient pas maladroits, puisqu'ils étaient quand même, surtout le Stade français, ils étaient quand même dans les deux premiers pendant pas mal de temps. Pau aussi, ils étaient tous les uns près des autres. J'étais surpris par le Racing, énormément surpris par ce milieu de terrain, par ce mêlée, par Ndamba Bamba qui est extraordinaire, qui revient plein badin. Oui, surpris par
ce troisième numéro. Ça fait 10 ans que tu nous
l'as dit. Mais non, mais celui, je comprends pas, à un moment donné, je comprends pas que c'est ce mec qui s'en prend.
Maintenant, revenons pas sur ce qui a été dit, je pense largement justifié, mais est-ce que c'est le moment?
Ouais, c'est le moment. Ouais.
Il est au meilleur niveau de sa carrière, là.
Quand on peut se chercher des pilars, quand même, qu'est-ce qu'il est bon, ce type, il est extraordinaire. Puis ce Ambrosi au milieu du terrain, avec les centres et tout ça, ils sont exceptionnels, avec le petit Carbonneau.
Ambrosi
Carbonel, non? Comment il s'appelle?
Ambrosi.
Je
croyais que c'était un Argentin, Ambrosi.
Sur le Racing était surprenant, mais le niveau de ces phases finales. Après, on parle du Stade français, mais exceptionnel aussi. Là, il me tarde la semaine prochaine de voir les demi-finales. Je ne peux pas te dire qui va gagner. J'ai l'impression que les 5 de devant du Racing, du Stade français et de Montpellier sont au-dessus de celui du Stade toulousain. Les Stades toulousains ont d'autres choses à faire valoir aussi. Mais sur les 4 équipes, qui va aller en finale, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Tu vois, j'ai dit à Bernard hier, on l'a chauffé parce qu'on était au match avec Denis, Bernard Laporte. Je disais là, quand même, vous allez se poser devant. Il m'a dit, Bernard m'a dit, attention, les gars, si c'est trop fort le Stade français, nous, on se casse un week-end à Marrakech.
Il m'a répondu ça, c'est vrai que ça fait peur, ça va être sympa
parce que là t'as quand même le Stade français c'est devant, c'est épais, mais qu'est-ce que tu veux dire du Racing devant, c'est épais aussi, le 8 au Racing, j'ai rarement vu ça quand même.
Comment il s'appelle,
quel joueur? Je sais pas comment il s'appelle, et je vais pas l'appeler
Maniarara
du lac du Connemara. Écoute-moi, il est exceptionnel,
t'es favori pour les demi, si tu dois te mouiller,
favori
du cœur.
Allez, Montpellier, Stade français qui gagne.
Tu m'as dit en antenne que tu vois Stade. Alors, c'est toujours l'impression.
Il balance.
Tu te dis, peut-être que Toulouse, tu les as pas vus jouer. Peut-être que Toulouse, ils vont te sortir un match, ils vont mettre un
match. Mais Toulouse, ils jamais été aussi fort quand ils étaient favoris.
Oui, mais au bout d'un moment, quand t'as jamais été aussi fort, tu restes jamais aussi fort.
Mais il y a Superman qui revient.
C'est comme ton truc, je dis, depuis 2018, il n'y a pas eu. Depuis 1945, il n'y a pas eu la guerre. Et ça ne veut pas dire qu'un jour ça va pas arriver.
Tu as vécu à Dubaï, toi.
Oui, moi je l'ai vécu, oui, je suis un ancien combattant, monsieur.
Toulouse Racing, tu mets quand même Toulouse favori, encore aujourd'hui. Légèrement ou pas? 51-49?
Non, 50-50. Comme le Stade français, je te jure que je ne sais pas qui va gagner. Okay. Je te dis, c'est Montpellier, le Stade français, mais t'as vu l'équipe qu'ils ont hier? C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de fou, ils sont magnifiques. Voilà, bravo.
Denis Charles.
Bravo tout le monde.
Alors, la seule interrogation, la seule et unique, c'est la fraîcheur physique. Voilà. N'oublions pas qu'ils vont jouer 6 jours après. C'est très peu. Hier, alors, le Stade français, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop donné, mais quand même, ils ont tourné tôt, ils ont fait beaucoup de joueurs, mais ça piquait quand même.
Ça piquait.
Je pense par contre que le Racing a moins de, je sais pas, le Racing, ils m'ont fait une impression incroyable, de puissance.
Attends, ils ont chaud à la fin, Denis.
Oui, mais ils sont pauvres,
tu mènes de 15 points.
Oui, 15 points.
Oui, mais ça revient.
Oui, mais la dernière possession, s'il n'y a pas la touche loupée,
bien sûr,
compréhensible.
Ils peuvent chercher la pénalité et gagner sur le fil, on est d'accord. Mais après, sur le match, ils ont été cliniques, ils ont été forts partout. Attention, le Racing, la charnière a été le petit Carbonneau, c'est quand même la révélation de cette saison. Il arrive de Brive, il y a 8 mois, il était à Brive,
oui,
quand même. Là, il survole les débats, enfin, à Pau, c'est incroyable. Le petit Gibert aussi à l'ouverture, ils ont maîtrisé ce match. Et puis la troisième ligne, Bodon, on ne parle pas de Bodon, mais ce mec est incroyable. Mais donc, dans le Racing, c'est beaucoup plus, comment dire, le Stade français,
m'a moins impressionné parce que au Stade Français, ils ont fait du free, ils étaient qualifiés depuis un moment.
C'était pas la même adversité aussi. Le Racing te fait forte impression parce
oui,
que
alors, La Rochelle, pas le carburant, plus d'essence. Plus oui, de tu as raison. Mais quand même, ils ont fait un rugby total. Derrière, je n'ai jamais vu aussi fort le Stade Français.
Ah ouais, non,
ils ont joué vraiment en équipe, parce que parfois, on leur reprochait.
En confiance.
Ouais. Là, ils sont en confiance totale. Écoute, ça
c'est
avance.
La deuxième attaque, hein.
Néné,
Ward. Toulouse a marqué 134 essais, le Stade Français 120 cette année.
Entre Ward, on n'en parle pas.
Mais ça joue
c'est l'âme de cette équipe de
l'arrière,
Stade Français.
L'arrière qui a été bon, le jeune
Néné, Néné, on parle des centres.
Noah Néné.
C'est incroyable, Néné, le centre, le match qu'il fait.
Pour le mettre au sol,
il
faut y aller.
Il faut y aller, et puis il fait des différences incroyables. Après, je le répète, c'est la fraîcheur physique. Montpellier, ils vont arriver très frais, avec deux paquets d'avant. Il va falloir être. Je pense qu'on en parlait à Wilfried, je pense que le banc va faire des différences. Et le banc du Montpellier est monstrueux. Attention, il y a un match, mais ça va être compliqué.
Si ça tient devant, mettons. Ça tient à l'arrache, mais ça tient. Il y a plus de talent à l'arrière à Paris qu'à Montpellier.
Oui, mais Montpellier, ils ont cadeau et. Comment il s'appelle, Wilfried le centre
Picardo
qui va rentrer, qui est monstrueux. Donc deux monstres au centre, Montpellier. Non, mais il va y avoir un match.
Moi, il y a des duels de partout. Hein.
Je dis la fraîcheur physique. Et le Racing, c'est pareil, face à Toulouse. Parce que Toulouse, on n'en parle pas, mais Toulouse, ils vont venir, à part Jelonge qui est blessé, ils sont complets.
Dupont est là?
Non, normalement,
Dupont,
oui.
Dupont, pour l'instant, est là.
C'est un badingue.
Dans quel état?
Il se mouille plus,
on me dit, il est là pour l'instant.
Il est là. Après,
pour l'instant.
Je suis Toulouse, je suis pas inquiet.
Il a pas joué depuis 6 semaines.
Pas inquiet, mais je me méfie quand même. Hein.
Je suis Toulouse, moi je te dis, je suis inquiet. Je te le dis, je suis quand même, ouais. Je regarde les cassettes du Racing, je me dis, ça va pas être facile.
Faut pas qu'ils aillent à Marseille, quoi.
Pas les cassettes.
Après, n'oublions pas que le Racing, ils ont roulé à Clermont, sur Clermont, ils ont battu Toulouse. Et là, ils viennent de.
Mais bon. Vous avez quand même en tête que le Toulouse qu'on a vu ces dernières semaines ne
sera pas celui-là.
Le Toulouse des phases finales.
Exactement.
Hein.
Alors, j'espère pas.
Eh oui, Pierrot.
Oui, tous les ans,
Pierrot.
Tous les ans, en fait, des autres favoris et tous les ans, ils éclatent tout le monde.
À force de ne pas être le Toulouse qu'on a vu, qu'on verra peut-être et qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, faites attention.
Mais Toulouse n'est jamais aussi fort qu'en phase finale.
Mais il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de parti pris pour les uns ou pour les autres.
Si.
Mais non, mais quand même.
L'entrée de le Racing, tu m'as dit. J'aimerais que le Racing
m'a fait forte impression.
Personne n'a évoqué, parce qu'on a notre réponse, qu'on avait fait un débat, je crois, vendredi. Je pense que le jingle bip bip de Pau, bah, finalement, il va continuer dans l'émission.
Ils ont tenu.
Ouais. Mais c'était le test, c'est pas passé. Après,
on commence à les chatouiller d'ailleurs. Hein.
Est-ce que ça se joue en mêlée, ce match?
C'est vrai.
Attends.
Que les Palois, ça commence à les gonfler, le bip bip.
C'est vrai.
C'est vrai. On a rigolé, mais. C'est vrai. Attends, les amis.
On peut mettre un coup de bip bip, peut-être, non?
Mais c'est très simple.
C'est vrai, pourquoi?
Quand tu l'entends.
Mais Vincent, si on t'avait fait ça quand t'étais joueur, tous les deux jours, bip bip.
J'ai zéro dans l'équipe, donc à partir de là.
C'est vrai. Ah oui.
À partir de là.
Ils sont très bien d'accord dans le bip bip.
C'est le seul rugbyman au monde d'avoir pris zéro dans l'équipe.
Thomas Lacaille, il est costaud.
Même Verbizier, mais quand t'es en compétition. Et surtout quand t'es battu, l'humour, tu le perds à un moment. Bah, c'est normal.
Dis un mot pour les Palois, bon, Vincent,
non,
pour le bip-bip, vas-y.
Écoute-moi, je vais te dire un truc. C'est peut-être le match qui m'a le plus ému. Quand j'ai vu ce gamin qui pleurait dans le réalisateur était magnifique. Ils ont vu, vous l'avez pas vu le match.
Un petit gamin,
c'était le gamin
de 8 ans.
Qui chialait, là, de 7-8 ans.
Non.
Non, mais là, c'est le.
C'est quoi? On va crever l'abcès tout de suite, Vincent. Adresse-toi aux avants de Pau et à l'entraînement des avants, parce que ça peut être vexant, le bip-bip.
Non mais vous déconnez, les gars, on déconne. Vous avez une équipe merveilleuse, c'est exceptionnel.
C'est un joke de l'émission qui s'est installé.
Oui,
c'est tombé sur Pau, comme ça aurait pu tomber sur Cast, sur Perpignan.
Et Didier Deschamps qui est énervé aussi.
La Kaya, tout ça.
Excuse-toi après Didier Deschamps, vas-y. Excuse-toi après Deschamps.
Et d'ailleurs le petit Oradou, je dis le petit Oradou, mais c'est très bon.
Non mais le petit Oradou,
je dis le petit, mais il fait 2 mètres.
Le match, c'est exceptionnel. Non mais ça se joue à que dalle. Ils ont un paquet d'avant qui est exceptionnel. Ils ont le niveau de ces barrages a été vraiment super.
Le seul problème, c'est que
bravo les Palois.
Qui fait la touche là pour Pau à la fin? Je sais plus son nom, comment
C'est le remplaçant de Montoya, Wilfried.
Et il disait que son modèle c'était Vincent. Bah, on l'a vu sur la
Pauvre, on peut pas. C'est terrible ce qui se passe parce qu'ils ont une dernière possession pour marquer. Il est sur le terrain depuis 20 minutes. Hein. Il est frais, lui. Il a remplacé Montoya.
Mais je pense sur le match, il me semble qu'il a manqué d'expérience de ce genre de match. Je pense que pour passer à côté.
Denis, à la fin, il remet la main sur le ballon. C'est bien.
Oui, mais il doit tuer le match.
Tu prends deux essais en début de deuxième mi-temps. C'est un match de barrage.
Après, voilà, je pense qu'ils ne sont pas passés à côté. Voilà, ils n'ont pas fait le match parfait pour se qualifier face à une équipe du Racing très, très, très solide.
Oui, non, mais vous l'avez vu quand ils nous disent ça, Pierre, ou tu n'as pas vu le match? J'avais une peine. Ouais. Il était inconsolable.
Après, je me suis dit un moment. J'aime pas critiquer les collègues, mais là, à un moment, le réalisateur, c'est gros plan systématique sur le gamin. Est-ce qu'il pleure? Une fois, c'est émouvant, mais fil rouge, c'est un peu
tout. Si ça se trouve, il pleurait parce qu'il a pris une tartine de sa mère.
Mais sa mère faisait tout pour le consoler, le pauvre petit.
À un moment, ils ont mis un double écran sur une pénalité et on voyait le gamin pleurer.
Mais c'était un moment de rugby, de voir un gamin qui voit son équipe perdre et qui chiale. C'est pas non plus du voyeurisme, c'est parce que c'était comme ça. Moi, je trouve que c'était beau. Ah ouais, vraiment, on a tous eu des gamins.
T'es capable de pleurer.
Moi, j'aurais été le père, j'aurais dit à la sienne, tu as chialé pour quelque chose.
T'es capable de pleurer sur commande, toi, l'acteur?
Oui, bien sûr, il a fait le
pas. Vas-y, pleure.
Non, t'as dit pleurer.
Non, Vincent.
T'as pas dit vomir.
Vincent,
t'as dit pleurer.
Il y a Christelle qui m'a dit que le fisc est de retour.
Oh non. Mais ça, c'est les sitcoms américains, sud-américains. Oh non.
C'est Marion Cotillard de Batman. Ouais.
Là, tu pleures pas sur le fils du. Déjà.
Moi, j'avais été bon que j'apprenne la mort de.
Allez, merci Wilfried. Oui. Et dans un instant, eh bien, nous écouterons Didier Deschamps en conférence de presse, en direct, expérience.
Non, c'est sans montage, ça rien, 19h26, le Super Moscato Show. Non, 16h26, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h30, le Super Moscato Show, on y revient, on mastique tout simplement. Pierrot. Dans une demi-heure.
Dans une demi-heure. France, Sénégal, les Bleus doivent-ils marquer leur territoire tout de suite dans cette Coupe du Monde? D'abord, on part aux États-Unis.
RMC, le Mosca.
Ce n'est pas pour la Coupe du Monde de foot, pour le sacre de Cyril Gann, qui donc a remporté son combat face à Alex Pereira pour la ceinture UFC poids lourd par intérim. Nous sommes toujours en direct de Washington avec Romain Pougeot. Salut Romain.
Romain.
Salut les gars.
Alors, salut. Dans ce cadre surréaliste de la Maison Blanche, Gann s'est imposé en patron.
Ah, en patron, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous a livré une masterclass, une performance exceptionnelle. Franchement, battre Alex Pereira, qui est la star de l'UFC à Washington sur l'événement White House, il n'y a pas mieux pour Cyril Gann. Déjà, sportivement parlant, il a montré tout son talent. Le premier round a été juste exceptionnel. Il a travaillé sur tous les secteurs du MMA. Puis au deuxième round, il a terminé en striking le Brésilien. Sportivement, il n'y a rien à dire. Et en termes d'aura, alors là, Cyril Gann, vous savez, il s'est fait siffler toute la semaine. Parce que Pereira, ici, c'est la star. Tous les Américains sifflaient Cyril, que ça soit à la conférence de presse, que ça soit à la pesée, et que ça soit pendant le combat. Il a mis une clim de l'enfer. C'est juste que tous les gens étaient choqués de la performance de Cyril Gann. Alors nous, les journalistes, on savait que Cyril était limite le favori sur le papier parce qu'Alex Pereira, il montait de catégorie. Il était champion des 84, champion des 93. Il tentait un pari incroyable d'être triple champ pour la première fois de l'histoire de l'UFC. Mais Cyril Gann, c'est un vrai poids lourd de 113 kilos qui bouge comme un poids léger. Et il a littéralement mangé le Brésilien hier.
Vincent, t'as été impressionné par le combat de Cyril.
J'ai impressionné, parce qu'il met une droite à un moment donné qui est terrible. Et il est gaucher, non, Cyril, c'est ça? Parce qu'il est en boxe.
Non, il est droitier.
Il est droitier, mais il a le point droit avancé. Il lui met une droite. C'est pas vraiment une droite, c'est un direct du droit, plus qu'une droite, quoi.
C'est un jab. C'est un jab.
Ouais. Il est inversé.
C'est un jab.
Japonais. Et donc il est tourné. C'est pour ça que je me suis dit, il est gaucher ou pas? Non, il inverse sa garde.
Il met bien.
Et oui, en plus, elle est pas. C'est indirect, quoi. Elle est pas vraiment. C'est pas une grosse. grosse droite. Ah ouais. Il le prend bien plein menton, il le prend, et puis après il le finit, il revient jamais. Après ce coup-là, il a du mal à revenir. Il est plus dans le truc. Bravo, bravo Cyril. Et
juste une précision, Romain.
Et puis la mise en scène, quand même, les mecs qui traversent le bureau ovale. Il a dû vivre un moment
fou,
pour lui.
C'est fou.
Mais exceptionnel, quoi. Tu vois, là, il y a quand même eu quelques présidents dans le monde qu'on
connaît. Tu seras toi.
Ah ouais, moi, j'aurais pris le grand bouquin, j'aurais signé, comme ça, j'aurais monté le livre. Comme
des décrets,
des décrets, comme s'il en pleuvait, toi.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette ceinture devienne la ceinture, entre guillemets, titulaire, normale, sans combattre?
Alors, sans combat, ça voudrait dire que Tom Aspinall, qui est le champion incontesté, vous savez, Tom Aspinall, c'était l'ancien adversaire de Cyril Gane. Il y avait cette histoire de hype hook il y a quelques mois. Et Tom Aspinall, il a fait un petit peu le malade imaginaire, on va dire. On va pas dire qu'il a pas eu mal, mais alors, il a fait traîner son retour. Il a dit qu'il avait des problèmes à l'œil, la rétine, etc. Il a pris son temps. Il a dit je peux pas encore recombattre parce que j'ai encore mal. Donc du coup, c'est pour ça que l'UFC en a eu marre et a organisé cette ceinture intérimaire entre Pereira et Cyril Gane. Il faudrait que Tom Aspinall sorte de l'UFC, ce qui est possible aussi, parce que Tom Aspinall, vous savez, il a signé avec Eddie Hearn il n'y a pas longtemps. Eddie Hearn, qui est l'anglais, le manager de la boxe anglaise, et Eddie Hearn, qui est un grand ennemi de Dana White. Donc, en fait, Eddie Hearn, il dit que Tom Aspinall n'est pas assez payé, que lui, il trouverait des organisations pour mieux payer Tom Aspinall. Donc, Tom Aspinall, il lui reste 3 combats, malgré tout, à l'UFC. Il faudrait qu'il sorte de ce contrat. Mais en tout cas, ici, tous les journalistes veulent une revanche contre Tom Aspinall. Et Cyril l'a dit à notre micro, il veut prendre Tom Aspinall à Paris en septembre.
Parfait. Merci, Romain. Romain Pougeot en direct de Washington. On zappe le MMA. Et avant d'aller écouter la conférence de presse de Didier Deschamps, là, pour l'instant, c'est N'Golo Kanté qui est en conf.
D'accord.
Nous accueillons Maria Azé pour le cyclisme.
Salut Maria.
Maria, donc, on avait Paul Sexas avait beaucoup d'ambition sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'est pas très bien passé. Il a chuté et finalement, n'a pas terminé ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pourtant aucune inquiétude chez Decathlon CMH-CGM le concernant.
Non, très rapidement, à l'arrivée hier, il y avait plein de monde qui attendait, plein de journalistes qui attendaient pour avoir des nouvelles de Paul Sexas. Et Decathlon CMH-CGM a tenu à rassurer tout le monde après son abandon à 85 km de l'arrivée hier de cette dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, notamment son coéquipier Aurélien Paré-Peintre.
Ça sert à rien d'insister, transpirer sur les plaies. On va repartir en stage d'ici la semaine prochaine, donc c'est bien qu'ils prennent tout de suite ces jours pour reposer. C'est vraiment que des plaies et des courbatures, donc avec les soins de l'équipe, ça va vite être oublié.
C'est que ça n'a pas gagné ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais rien d'alarmant pour son équipe. Ce n'était qu'une course de préparation pour le Tour de France. Son directeur sportif Julien Jurdi voit même du positif dans tout ça.
Apprendre à la douleur, et je pense que c'est malheureusement un bel exercice pour l'ensemble du groupe, que ce soit en particulier Paul qui est un jeune coureur. On sait qu'un jour il y aurait des pépins. Voilà, la chute est arrivée, ça va servir effectivement, et je le pense rapidement, sur les routes du Tour.
Paul Sexas va désormais se reposer quelques jours chez ses parents pour soigner un peu ses plaies, notamment aux mains. Vous avez vu, elles étaient vraiment arrachées, ses mains, avant de refaire des examens pour décider s'il peut partir en stage en altitude dès la fin de semaine.
Il n'y a pas de fracture, il n'y a rien, Maria.
Normalement, rien. Les premiers examens, il est reparti hier matin, c'était parce qu'il n'y avait pas de fracture.
Donc, pas d'inquiétude.
Pas d'inquiétude. Dans l'homme, il a raison de pas.
Non, mais ça rappelle aussi que quand on fait des projections sur un champion, même un champion d'exception, non, mais faut toujours faire. C'est quand même, tu vois, c'est toujours mieux que ça lui arrive là qu'au Tour de France. Tu peux avoir la même mésaventure au Tour de France.
Il peut tomber au Tour de France aussi.
Exactement.
Ouais. Alors, dans les grandes gueules, ils avaient un débat, ils se sont un peu écharpés. Certains disaient, c'est un mal pour un bien. C'est pas mal que ça lui soit arrivé. Est-ce que vous croyez à cette théorie? Sur le côté, c'est l'expérience ultime, il s'est endurci.
C'est des conneries, ça.
Pas du tout.
C'est des conneries. C'est comme un KO en boxe, c'est jamais bon. Tu t'endurcis pas après un KO.
Oui, puis
à part te filer la peur, les chutes, c'est comme un accident de Formule 1. Tu prends un accident de Formule 1, après, t'hésites de revenir, tout ça. Lui, ça peut le freiner sur des descentes, des trucs comme ça, parce que la peur peut rester pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois. Il peut toujours avoir ce souvenir de ce chute si c'est
pas. Non, mais t'as raison, parce que
ça ne sert à rien, ça n'a aucune expérience.
J'ai écouté le débat, justement, et c'était très partagé, parce que Jean-Pinot n'était pas forcément d'accord avec Marc Madiot. Et moi, j'étais d'accord avec Marc Madiot qui disait justement, ça risque d'être.
Depuis quand c'est une bonne nouvelle de tomber?
Un peu de traumatisme.
Jamais une bonne nouvelle de tomber.
Oui, mais. Non, mais parce que Jean-Pinot disait que c'est un mal pour un bien.
Psychologiquement, de tomber, tu te vois mal, papa. Tu te vois très mal. Oui. Et donc après, il ne faut pas que ça reste dans ton cigare. Hein.
Merci, Maria. On part à la Coupe du Monde.
La tête.
On va aller en direct sur la conférence de presse des Bleus. C'est N'Golo Kanté qui devance Didier Deschamps. C'est en direct.
de maintenir la préparation qu'on a eue ces derniers jours pour le match de demain et de bien profiter des pauses fraîcheurs. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est que tout le monde est concerné. Je pense que les joueurs sur le banc auront leur importance, pourront apporter un gros impact. Voilà, on se prépare pour demain, on est prêt et ça fait quelques jours qu'on se prépare à ça.
Écoute, une question.
Bonjour N'Golo, Jean-François Pérez ici, le JPP.
Le groupe est difficile, évidemment, mais il y a quelques internationaux français qui ont dit ces derniers jours que le principal adversaire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, ça pouvait être elle-même. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? J'imagine que tu vois ce qu'ils veulent dire par là. Et comment faire pour l'éviter en l'occurrence? Merci.
Oui, je pense que c'est bien d'avoir de la confiance, c'est important. Et il faut croire en nous pour être sûr qu'on peut aller loin dans la compétition. Mais la réalité, c'est que ça passe match après match. Il peut se passer beaucoup de choses.
Ah, ça c'est pour toi, les matchs après match.
Il faudra s'adapter aux situations de match. Et bien sûr, je pense que le principal adversaire, c'est nous-mêmes. Il faudra rester solidaire,
atteindre les objectifs,
être concerné, concentré et se battre pour ça. Mais
allez, merci,
on aura aussi un adversaire en face. Il faudra être meilleur qu'eux également.
Ah oui, ça c'est sûr.
N'Golo
Kanté, ça c'est sûr. Pierre, on faudra être meilleur. Envoyer le push à N'Golo Kanté. Il faudra être meilleur que les autres.
Il parle de la confiance quand même. Et dire notre principal adversaire des Bleus, c'est les Bleus. Je trouve ça quand même assez présomptueux. Hein.
Le cigare.
Ça veut dire quoi? Que le Sénégal, la Norvège, l'Allemagne.
Il n'y a rien de pire de se mettre avec des coffres, des trucs comme ça. Ça, c'est quand tu vas le vouloir. Nous, notre gros adversaire, c'est nous-mêmes.
C'est nous-mêmes.
Non, mais en plus, oui, mais t'as raison. Je ne dis pas. Celui qui pose la question, il reprend des mots qui ont été repris par les
joueurs. Je suis entraîneur, j'ai fait 50 pompes de punition et 50 ans.
Tiens, quelques petites infos, Coupe du
et pour le journaliste.
L'Espagne débute à 18h face au Cap-Vert. Lamine Yamal, qui s'est blessé fin avril à une cuisse, est apte, mais il ne démarra pas. Il démarre sur le banc. On devrait le voir. Il a plus mal normalement, puisque la Fuente a dit que ça y est, c'était réglé, mais il démarrera pas. On va le voir sûrement quelques minutes en fin de match. Et puis il y a des transferts dans cette Coupe du Monde de joueurs qui sont concernés. Le Real Madrid continue son marché et a trouvé un arrière gauche. C'est Marc Cucurella. Tu vois forcément qui c'est, Vincent.
Oui.
Arrière gauche. De l'Espagne et de Chelsea qui a une énorme touffe de cheveux.
Cheveux, on peut l'appeler aussi comme l'autre. Hein.
Alors, combien ça coûte aujourd'hui un arrière-gauche titulaire à Chelsea et en équipe d'Espagne 55 millions d'euros.
55 millions.
Quand même.
Tu prends ton panier, tu vas faire le marché. Oui, je voudrais un arrière-gauche.
Et à droite, ils ont pris Dumfries. À droite,
Dumfries.
Ils ont pris Konaté, donc ils ont quand même ciblé les 40.
Qu'est-ce que c'est ça, les 40 qu'ils avaient un arrière-tête, la carte. Tu payes une carte, le mec, tu te sens
là. Il faut la platinium, là.
La platinium, ça, là. À contact, non, il faut faire le code.
Là, c'est le carte.
Et puis, le Bayern recrute aussi. Le Bayern recrute le buteur du Maroc qui a inscrit le premier but contre le Brésil, Saïbari, qui était ailier gauche plutôt au PSV Eindhoven, qui joue en pointe avec la sélection marocaine et qui ira donc au Bayern Munich l'année prochaine.
C'est beau, bon joueur.
Ouais, comme tu vois, le Bayern, ils sont déjà très équipés.
Oui, il y a déjà du monde.
Ils continuent de recruter.
Je crois que les mecs, ils vont te regarder le PSG.
Et le PSG, Pierrot.
Ah, qu'est-ce qu'ils font le PSG?
Et oui, on sait qui recrute.
Ils travaillent
sur Alvarez, mais je crois
qu'ils ont laissé quelques lignes.
Non, le PSG, il faut d'abord voir ce que vont faire Barcola et Ramos.
Et l'OM, c'est quand William est content, Saïbari.
L'OM a l'entraîneur.
L'OM, on va faire un débat demain.
Est-ce qu'ils ont un entraîneur?
Non, mais attendez, rigolez pas, l'OM n'a toujours pas d'entraîneur.
Oui, mais Pep, c'est pour parler, non?
Non, mais c'est simple.
On peut se poser la question, vu les saisons qu'ils font, est-ce qu'ils ont besoin d'un entraîneur?
Non, mais arrêtez de rigoler.
C'est un
sujet sérieux.
Oui.
Bruno Genesio a donné son accord, tout le monde est OK, mais ils attendent encore la décision de l'UEFA sur la Ligue Europa.
Ah oui.
Mais combien de temps on va attendre comme ça? Normalement, c'est mercredi au plus tard.
Et puis, ils ont pas réglé l'affaire Habib Bey, qui a encore ce contrat.
Exactement. Habib Bey est toujours là.
Oui.
Et puis, est-ce que vraiment, t'as envie d'un entraîneur qui attend de savoir s'il va jouer la Ligue Europa ou pas pour se décider?
Je vous donne rendez-vous vendredi. On sera à Marseille et on va gérer ça, Pierrot.
Avec très une très bonne question moyenne sur l'OM. Soyez là, supporter marseillais.
Très bien.
Dans un instant, c'est le Journal Moyen, deuxième édition.
Deuxième édition. Il est de retour dans le Journal Moyen puisque, surprise, il commente à la télé sur M6 les matchs de foot. Jeannot Rességuier est de retour, Il nous a fait quelque chose ici, Jean-Marc Ferreri.
16h42, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h47. On est dans le Super Moscato Show, mon petit Pierrot.
Alors, avant le journal moyen, ouais, nous allons directement aux États-Unis pour les premières secondes de la conférence de presse de Didier Deschamps avant le match contre le Sénégal. On est en direct.
Le dernier champion du monde, il a perdu son premier match. Ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde aussi, donc. Mais dans l'idéal de bien commencer par une victoire.
Il répond à la question de notre débat de 17h.
À quatre équipes, c'est la meilleure des choses. Donc c'est toujours l'objectif quand.
Une deuxième question, non ?
Quand on aborde ce premier match.
Allez.
Alors on écoute un peu. Didier Deschamps.
Le journaliste qui lève la main dans la salle.
Vincent Duluc à l'équipe, mais en l'occurrence, je ne représente pas l'équipe, je représente l'ensemble des journalistes français et des autres. Puisque nous soutenons aujourd'hui Christophe Glaise, notre confrère de SoFoot, qui est emprisonné en Algérie pour travail. Et donc, ses parents l'ont rendu visite dans sa prison il y a 15 jours. Et on ramenait une question, parce qu'il reste toujours journaliste. J'ai son accréditation pour la Coupe du Monde, et on espère qu'il pourra nous rejoindre avant la finale de la Coupe du Monde. La question qu'il pose est liée au nouveau découpage des mi-temps. Avec la pause fraîcheur.
C'est Glaise jusqu'à
la question.
Parfois,
la question de Christophe Glaise.
On posait cette question aux entraîneurs. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps ? Est-ce que maintenant il faut vous demander ce que vous avez dit à la mi-temps des mi-temps ?
Déjà par rapport à Christophe, j'ai eu l'occasion lors de la finale de la Coupe de France de rencontrer ses parents. J'espère pour lui et pour sa famille qu'il puisse être le plus tôt possible là et poser lui-même ses questions. Je vais répondre à sa question. Évidemment, ce sont des moments de pause, fraîcheur, comme on dit, mais pendant 3 minutes, évidemment, d'avoir les joueurs proches, ça laisse la possibilité de pouvoir modifier certaines choses par rapport aux 22, 23, 24 minutes qui se sont écoulées. Quand il y a des températures élevées, évidemment, c'est quelque chose d'important, que ça nous laisse à nous, coach, une parenthèse ou deux parenthèses supplémentaires. Oui, c'est la réalité. De notre côté, après, ça amène aussi à couper les demi-temps, et tout dépend. L'équipe, si elle est dans un temps fort ou dans un temps faible, surtout si elle est dans un temps fort, d'avoir cette coupure, forcément, il y a une reprise derrière. Ouais. Donc, on s'adapte.
C'est fou,
on l'a mis en place sur les 2 matchs de préparation aussi, parce que ça fait... c'est quasiment 4 quarts-temps. Et avant, on avait 2 demi-temps. Donc, ça a été décidé. Donc, les joueurs et évidemment les coachs s'adapte, mais c'est une prise de parole supplémentaire.
On a un message de Christophe Glaise qui dit bah, attendre des conneries comme ça, je préfère taper déjà.
On est en direct de la conférence de presse de Didier Deschamps, et ça, c'est très bien tombé que cette question super, de Christophe Glaise soit médiatisée en direct.
Bien sûr,
parce que
c'est dramatique.
Également, ça fait 2 ans
dramatique,
qu'il
c'est catastrophique. Quoi, ouais.
Et il était condamné.
C'est quand même anormal qu'on n'arrive pas à le sortir de là, quand même. C'est quand même une honte pour la France de ne pas le sortir de là. C'est une honte. Alors, je ne parle pas pour le gouvernement algérien, ça c'est honteux de prendre un journaliste comme ça. Les jeunes.
On retournera tout à l'heure.
Tu es un peu déçu hein, sur les 2 premières réponses de Didier Deschamps.
Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, mais
pas d'erreur. Il y a pas
d'accro. Souvent, on ricane aux bafouilles de Didier Deschamps, mais je trouve que c'est très bien. Le hasard a très bien fait les choses.
Très bien.
Que nous soyons tombés sur ce moment, puisque c'est toute la presse française qui s'est associée aux parents de Christophe Glaise pour qu'il puisse poser
cette
question.
On les embrasse, les parents.
Il y a Vincent Duluc en conférence de presse à Didier Deschamps.
Ça me fout le cul en larmes.
16h51. Mini-journal moyen, du coup.
Ouais. Mini-journal moyen, aujourd'hui. Deuxième édition avec... il y aura des saucisses, quand même, dans ce mini-journal moyen. Des joueurs de l'équipe de France de foot, coquins, les joueurs de Didier Deschamps. Et puis, 16h55, la première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2702e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Dédié à Christophe Glaise, Vincent. Jingle.
Super.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen, 2e édition.
Des nouvelles des Bleus, jingle Dédé.
Vous n'êtes pas content ?
Triplé.
Triplé.
Tant mieux pour lui et pour l'équipe.
Oui. Début 21h de la Coupe du Monde demain pour les Bleus, France-Sénégal. Les Bleus sont en forme, Vincent, comme on dit. Je sais que tu aimes cette expression. Tous les ingrédients sont bien réunis et le groupe vit bien.
Ils sont programmés.
Il y a des coquins, il y a des cancres. Dans les groupes de 26, il y a toujours des petits cancres.
Heureusement.
Comme dans tous les groupes. Alors, vidéo publiée par la Fédération Française de Foot, le compte de l'équipe de France, dans laquelle je pense que toutes les sélections font ça. Chaque joueur donne distinctement son prénom et son nom en français. Ça sert aux supporters, ça sert aux journalistes étrangers qui ne savent pas comment prononcer parfois les noms quand c'est pas ton pays. Donc, ça donne ça, par exemple. C'est pas mal, c'est éducatif.
N'Golo Kanté.
Voilà.
William Saliba. Mmh. Jules Koundé.
Voilà. Mike Maignan.
Voilà, comme ça, si t'es un journaliste brésilien, tu sais comment prononcer les noms des Français. Il y a toujours un cancre dans l'histoire. Écoutez la suite.
Mike Maignan.
Marcus Thuram.
Alors, il a un grand sourire, Marcus Thuram.
C'est
incroyable, face caméra, mec, tu sais qu'il fait une bêtise. Hein. Deuxième cancre, il y en a deux sur 26, ça va, c'est pas beaucoup, mais lui, on savait que c'était un cancre.
Brice Samba. Mmh.
Lucas Digne.
Ryan Cherky.
Ryan, c'est américain.
Ryan Cherky. Bon, moi, ça me. Ils sont très, très forts. Ouais. Ça me donne envie pour se donner de.
Giroud.
Moi, parfait. Les Français qui parlent avec un accent anglais, ça me fait toujours penser à Try Try Four. C'est gratuit, il va nous porter bonheur avant chaque compétition. C'est un supporter de l'équipe de France devant le Stade de France.
On connaît son identité et tout.
Mais non, on l'a pas retrouvé.
C'est normal.
C'était avant France-Angleterre. Il y a une journaliste de l'émission Quotidien sur TMC qui se fait passer pour une Anglaise et qui interroge ce supporter français qui accepte de parler anglais. C'est un grand classique, mais on se fait plaisir. Il va lui répondre en anglais avec son anglais.
How are you?
Hey. Je suis français.
But how are you? Can you speak in English?
Thank you.
Thank you.
Very much.
Why are you here tonight?
Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort.
Très fort.
Et très respectable sur le terrain.
Why do you think that Giroud is the best French player?
Yes, he's a Giroud.
Last question. Do you know who is the... English Prime Minister?
Yes, I am.
Ouais, yes, I am.
Il a sorti ce qui lui restait de 6ème.
C'est trop extraordinaire. Alors, c'était un mini journal moyen, parce qu'on a entendu Didier Deschamps, c'était très important. Est-ce que vous voulez un petit peu de Jeannot à choisir plusieurs choses.
Jeannot.
Salut Jeannot.
François qui récupère le ballon, François très de Brassens. Et merde.
Jeannot qui a quitté RMC, Jeannot Rességuier, mais qui travaille pour M6 à la télé. Il commentait Allemagne Curaçao sur M6 avec Jean-Marc Ferrer hier. Je crois que Jeannot s'est trompé de mot, ou alors il est coquin. Hier, nous étions le 14 juin, et le 14 juin, a priori, l'Allemagne n'a jamais perdu un match de Coupe du Monde en phase finale quand il joue le 14 juin. Jeannot veut nous dire que certains Allemands sont superstitieux sur cette date, mais il n'emploie pas le mot superstitieux. Il est coquin, Jeannot.
Il va tourner autour, qui est pour moi plus intéressant dans ce rôle-là, de numéro 10. Qu'un véritable avant-centre.
Alors, si les Allemands sont fétichistes.
Ah non, c'est pas fétichiste. C'est pas fétichiste. Non, Jeannot, c'est superstitieux, c'est pas fétichiste, Jeannot.
Il doit y en avoir.
Il doit y en avoir. Et puis, à la fin du match, Jeannot, avec une petite fiche, c'est quelqu'un de très professionnel. On lui a dit, quand on arrive dans les temps additionnels, tu annonces la suite du programme sur M6, c'est le mag foot, présenté par Ophélie Meunier, star d'M6, tout le monde la connaît, Jeannot exceptionnel.
La soirée foot continue sur M6, bien évidemment, avec le mag tout à l'heure, avec Ophélie Winter.
Non, pas Ophélie Winter.
Il est bon, non, pas du tout.
Je vais te dire, Ophélie, quand ça te vient, tu
Ophélie Winter.
Je suis malhonnête, je sais qu'il va m'envoyer un texto d'insulte là. Il se reprend tout de suite avec un petit sourire.
La soirée foot continue sur M6, bien évidemment, avec le match tout à l'heure, avec Ophélie Winter, Ophélie Meunier, Smail Wattela et Johan Chou.
Eh oui, Jeannot, pour saluer Jeannot.
Jean-Marc Ferrer, il a la même maladie que vous. Hein. Les noms propres, c'est très compliqué.
C'est compliqué.
Jean-Marc, mais il a de l'enthousiasme, Jean-Marc.
Ah oui,
il a joué à Bordeaux.
On l'embrasse, Jean-Marc. Bordeaux, OM, et il est du groupe 93 avec Eric.
Avec Eric, ouais.
Il allait vite un Ferrari sur le terrain.
Ouais, il va en Ferrari.
C'est bon.
Allez, première.
C'est le mari de Laurence, non ?
Citation du Kikadi du jour. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Pierrot joue pour un troisième grand chelem consécutif.
Et moi, je joue pour Dugarry.
Toi, tu joues pour Christophe Dugarry. Tu joues pour Christophe qui nous rejoint dans quelques secondes. Kikadi.
Oui.
Kikadi. l'exigence au quotidien, c'est ce qui, Gustave, c'est ce qui caractérise le Barça, le FC Barcelone.
Aporta. Deco.
Messi. Et les champions d'Europe ce week-end.
Ah, Dika même. Olivier et Emerick Mean.
Fabregas, c'est dit.
Il l'a dit.
Excuse-moi, Pierrot,
Il a dit.
Ludovic Fabregas.
Ah oui, Pierrot, ça fait une réponse.
Et en plus, je pense que ça ne t'est pas arrivé naturellement, si je peux me permettre.
Non, Pierrot l'a dit.
Donc moi quand je réponds, c'est pas naturel.
Le problème de Vincent, c'est qu'il pense que c'est Cesc Fabregas qui a joué à Barcelone.
Ouais.
C'est pas Ludovic Fabregas.
A gagné dans le Kikadi, je vous rappelle, votre cadre numérique connecté, pas photo. Et pas de vol.
D'accord.
Dans un instant, France, Sénégal, les Bleus doivent-ils marquer leur territoire? À tout de suite.
16h58, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.